Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, pour le 7e épisode d'Asialogie, on va parler philosophie avec Lao Tzu et faire connaissance avec l'empereur de Jade, les fameux 8 immortels de la mythologie taoïste. Et en deuxième partie d'émission, Didier, tu nous raconteras la vie du petit dragon Bruce Lee, acteur et réalisateur de films d'arts martiaux et bien plus encore, philosophe qu'on ne le pense.
Il y avait tout un programme en fait là.
Tout un programme.
Exactement.
Alors d'abord, une petite définition. Le taoïsme est une philosophie et une religion originaire de la Chine, centrée sur le Tao, un concept qui signifie la voie ou le chemin. Le Tao représente l'ordre naturel et fondamental de l'univers, et le taoïsme enseigne que vivre en harmonie avec ce principe mène à l'équilibre et à la paix intérieure. Le taoïsme a toujours une influence considérable sur la culture et la pensée dans toute l'Asie, ainsi que sur d'autres courants philosophiques et spirituels à travers le monde. On va voir ça plus loin.
D'accord.
Alors, le taoïsme est né au cours du 6e siècle avant notre ère. Ça,
oui.
Ça nous parle déjà.
Oui.
On en a parlé du 6e siècle avant notre ère. Et son texte fondateur au taoïsme, c'est le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, qui est donc attribué à Lao Tzu, un sage dont l'existence est incertaine. Alors, je dirais qu'il serait un personnage composite de plusieurs penseurs, un petit peu comme l'était Homère.
D'accord.
Voilà. Et Lao Tzu signifie vieux maître ou vieux sage. Lao, en chinois, ça veut dire vieux.
Ok.
Dès qu'il y a Lao, c'est vieux. Et il aurait donc vécu vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, à la même époque que Confucius et Bouddha. C'était quand même très riche en philosophie cette période.
C'est clair, oui, on ne peut pas dire
voilà.
Le contraire.
Et c'était aussi durant la fameuse dynastie Zhou, une époque qui était très très troublée politiquement dans cette zone. Alors la tradition rapporte que Lao Tzu était un archiviste à la cour royale des Zhou, mais déçu par la corruption et les troubles sociaux de l'époque, il aurait quitté son poste et entrepris un voyage vers l'ouest. Ça nous parle aussi.
Je crois, oui.
On en reparle aussi un peu plus tard. Et il serait donc parti vers l'ouest pour mener une vie de reclus en harmonie avec la nature. Alors il faut savoir que en Asie, quand on dit qu'on va vers l'ouest, en fait, on va vers la nature.
Ah d'accord. Alors bon, du coup, on l'a évoqué. Y a-t-il un lien avec le livre et l'histoire de Sun Wukong, le roi singe ?
Oui.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a un lien ? Bah oui, on aimerait bien. Et puis, il y en a quand même un petit. Alors, je vous rappelle, chères auditrices, auditeurs, que c'est Wu Cheng qui a écrit Pérégrination vers l'Ouest.
Oui.
2000 ans plus tard, quand même.
Oui.
Et il s'en est inspiré pour son roman Pérégrination vers l'Ouest. Mais seulement pour l'histoire du roi singe et l'image du vieux moine.
D'accord.
Mais le moine en question dans les livres a vraiment existé. Et ce moine a ramené de son voyage les écrits bouddhistes au 7e siècle, sous la dynastie Tang. Donc dans les pérégrinations vers l'ouest, il y a une part de vérité quand même.
Oui.
Alors la légende raconte que Lao Tzu quittait la Chine pour un exil volontaire et un gardien de frontière l'ayant reconnu comme un grand sage lui aurait demandé de laisser une trace de son enseignement avant de partir. Et c'est alors que Lao Tzu aurait rédigé le Tao Te Ching, le fameux petit livre.
D'accord.
Et il serait parti monté sur un buffle comme le moine qui s'appelait Tripitaka. Et il aurait disparu vers l'ouest, où il aurait poursuivi sa quête spirituelle.
Ok, et alors, il nous enseigne quoi ce petit livre ?
Alors, ce petit livre, le Tao Te Ching, est composé de 81 courts chapitres écrits dans un style poétique et très mystérieux, qui nous décrit la nature de la voie et de la vertu, la politique, la morale et le comportement humain.
C'est complet.
C'est complet et je dirais un petit peu ésotérique quand même.
Ouais.
C'est pas de lecture facile, contrairement à Confucius.
Ah d'accord.
Alors, quelques clés. Le Tao, c'est l'ultime vérité, un principe cosmique indescriptible à l'origine de tout, un petit peu comme Purusha en Inde, rappelons-nous. Mm-hmm. C'est l'essence invisible qui sous-tend tout ce qui existe. Tao égale tout.
Ok.
Il y a aussi le principe du Wu Wei dans le Tao. C'est la non-action. C'est la notion qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme. Alors le Wu Wei, c'est agir de façon spontanée et naturelle, sans effort ni résistance, et sans forcer sur les événements. Alors le Tao Te Ching nous recommande de mener une vie simple, en évitant les désirs excessifs et l'accumulation matérielle. Et oui, et la sagesse se trouve donc dans la modestie et l'empathie. Mmh. Et il nous dit aussi d'être flexible comme de l'eau. Capable de modeler la roche.
Pas
ça
mal.
Veut tout dire.
Ouais.
Faut avoir ça à l'esprit.
Il faut du temps à l'eau pour modeler la roche, par contre.
Voilà, c'est ça, il faut de la patience.
C'est ça.
Et Lao Tzu dit que la souplesse et l'adaptation aux circonstances sont des forces supérieures à la rigidité. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui l'adaptabilité,
ouais,
la flexibilité.
Ouais, c'est ça.
Alors il décrit, donc on s'inspire beaucoup de Lao Tzu et du Tao Te Ching aujourd'hui.
Hein. Oui.
Alors, il décrit aussi le rôle du sage qui agit sans ambition personnelle, sans imposer ses désirs ou volontés sur les autres, et qui permet aux autres d'agir par eux-mêmes. Ça aussi, c'est très important, l'autonomie. Et le Tao Te Ching inspire toujours les philosophes. C'est un des livres les plus traduits au monde.
Ah oui.
On peut le trouver partout pour moins de 5 euros. C'est bien ça, quand
ouais,
même.
C'est un bon investissement.
Un ouvrage
là.
Indispensable, mais un peu compliqué à lire.
Oui, j'entends bien.
Un peu ardu.
Alors, si j'ai bien compris, le taoïsme, c'est surtout une philosophie, finalement.
Oui, alors je résume quand même à nouveau.
S'il te plaît. Hein,
le Tao, c'est l'essence cosmique éternelle à l'origine de tout ce qui existe. Il est la force invisible, omniprésente, qui régit l'univers, mais qui échappe à la compréhension rationnelle humaine. Ça nous rassure un peu, quelque part. Et le Tao est à l'origine d'autres concepts, comme celui bien connu du yin et du yang.
Ouais, ça me parle.
Ça vient du Tao, le D'accord. yin et le yang. Et c'est un concept d'un tout équilibré sur lequel s'appuie la vie et la société extrême orientale.
Mmh.
Alors le yin et le yang, c'est assez simple, hein. Ce sont deux forces opposées, complémentaires et indissociables. Le yin féminin représente la passivité, l'obscurité et l'empathie, tandis que le yang masculin représente l'activité, la lumière et l'action. Le yin, c'est la lune, le yang, le soleil.
Okay.
Alors, ces forces doivent s'équilibrer naturellement pour vivre dans l'harmonie. C'est la sagesse taoïste que l'on peut atteindre par des pratiques spirituelles aussi.
D'accord. Bon, alors, tu parles de pratiques, je vais y arriver, spirituelles. Bah, tu peux m'en dire plus? C'est quoi ces pratiques?
Alors, en Occident, on est un petit peu taoïste, sans le savoir, même beaucoup, je dirais.
Ah.
C'est la méditation, par exemple.
Ouais.
Alors, en France, on connaît bien la méditation.
Ouais, j'aime bien.
Voilà, elle aide à se concentrer sur la tranquillité intérieure et la connexion avec le Tao. Alors une autre des pratiques spirituelles, c'est les arts martiaux premiers qu'on connaît très bien aussi en France.
Ouais.
C'est le Qigong et le Tai Chi, qui consistent à trouver l'alchimie intérieure en cultivant l'énergie vitale qu'on appelle le Qi. En relation, ça veut dire le souffle, en relation avec les organes internes et la circulation des énergies dans le corps. Ça nous soigne, le Qigong et le Tai Chi.
Ouais.
Et puis, bien sûr, il y a les rituels de purification et les offrandes pour honorer les esprits et les ancêtres. Alors, vivre selon le Tao implique aussi une approche minimaliste et naturelle de la vie. Vivre simplement, apprécier les petites choses. C'est écouter la nature, la contempler et pratiquer, comme je vous le disais, le Wu Wei.
D'accord.
Voilà, agir de manière spontanée.
Très bien. Alors, il existe aussi un taoïsme religieux, plus religieux ?
Oui, il y a deux branches dans le taoïsme. Il y a le taoïsme philosophique qui s'appelle le Tao Chia, dont je viens de parler, et le taoïsme religieux, qui s'appelle Tao Chiao, qui s'est développé au fil du temps. Depuis le deuxième siècle de notre ère, donc plus tard le taoïsme religieux, ce n'est donc pas Lao Tzu qui est à l'origine du taoïsme religieux. Je dirais la spiritualité, et avec des rituels et des croyances populaires qui sont devenues, je dirais, le taoïsme religieux, avec le culte des esprits et de divinités spécifiques encadrées par des prêtres et des moines. Et dans ce taoïsme religieux, le Tao est souvent personnifié et intégré dans une mythologie dont la divinité la plus importante est l'empereur de Jade, qui gouverne les cieux et l'enfer.
Oh, d'accord.
Bon, bah, pour digérer tout ça, moi je propose qu'on écoute
une pause,
qu'on fasse une pause musicale.
Oui.
On va écouter « I am waiting for you » in Guizhou.
D'accord.
C'est très beau, c'est une chanson chinoise.
Eh bien, nous écoutons alors. Retour sur Radio Alpa avec Asiologie. Corinne, tu nous expliques maintenant qui est en fait cet empereur de Jade, s'il te plaît.
Personnage très important. Alors, en chinois, c'est Yu Huang.
Ouais.
Huang, c'est empereur, on se souvient.
Oui.
C'est la plus importante divinité de la mythologie taoïste. Et en fait, il est un mélange de mythes taoïstes et de traditions populaires chinoises. C'est un personnage... qui n'a pas existé véritablement.
D'accord.
Alors, dans certaines légendes, l'empereur de Jade était un simple mortel, fils d'un roi bienveillant. Et dès son plus jeune âge, il était déjà très sage. Alors, après la mort de son père, il est devenu roi à son tour et a cherché à améliorer le sort de ses sujets. Et il a renoncé au trône pour devenir ermite.
Ah oui.
Et après des millions d'années de pratiques spirituelles, il a finalement atteint l'immortalité. Alors, pour avoir des millions d'années de pratiques spirituelles, j'imagine qu'il était déjà immortel.
C'est ça.
J'ai ceci pas trouvé
cela,
l'explication.
Oui.
Mais enfin, en tout cas, voilà, il a fallu qu'il pratique beaucoup, qu'il médite beaucoup pour atteindre l'immortalité. Hein, c'est peut-être une expression quand on dit un million.
Oui.
Et il est devenu l'empereur de Jade. Alors depuis, bah, il est à la tête d'une hiérarchie divine complexe qui régule les lois cosmiques, le cycle de la vie et de la mort.
Ah oui.
Voilà, avec l'histoire du roi singe,
d'accord,
s'inscrit là-dedans.
Alors ça veut dire qu'il dirige d'autres divinités et aussi les humains, enfin...
Oui, 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 il dirige toutes les divinités,
d'accord,
et les humains.
Okay.
C'est le chef des dieux et le superviseur des bonnes et mauvaises actions accomplies par chaque humain. Alors, il faut savoir que les actes vertueux sont récompensés, tandis que les mauvaises actions entraînent des punitions karmiques. C'est comme ça qu'on peut se réincarner en vers de terre si on n'a pas été sympa.
D'accord, ok.
Voilà.
Faisons gaffe.
Voilà. Et l'empereur de Jade supervise aussi les démons, les affaires de l'enfer et le jugement des âmes. Alors, il faut savoir que les démons ne sont pas mauvais. En fait, ils règlent le problème des personnes qui ont commis de mauvaises actions.
D'accord.
Uniquement. Alors, l'empereur de Jade est souvent représenté comme un vieil homme avec une longue barbe blanche, un peu comme un Père Noël, mais pas habillé de rouge.
Ouais.
Lui, il est vêtu d'une robe impériale dorée ou verte. Il est toujours assis sur un trône sur des nuages, entouré de ses ministres et serviteurs. Et il est associé à tous les éléments du ciel, comme les étoiles, les nuages, les dragons. Et il est toujours vénéré dans de nombreux temples dans toute la Chine, particulièrement à Taïwan, à Hong Kong et par la diaspora chinoise.
D'accord.
À Paris, on peut aller dans des temples taoïstes et y rencontrer l'empereur de Jade.
Eh bien.
Voilà, il faut savoir aussi qu'on célèbre l'empereur de Jade le 9e jour du festival du Nouvel An asiatique.
D'accord. Bah, du coup, Corinne, c'est qui sont ces 8 immortels?
Ils mériteraient une émission, les 8 immortels.
On peut y réfléchir.
Mais bon, là, je vais faire un petit...
En version courte.
D'accord. Alors, ce sont les hommes de main de l'empereur de Jade. Alors, ce sont aussi des personnages très populaires et ils seraient des humains ayant atteint l'immortalité grâce à quoi, Didier?
Pratique spirituelle.
Bien sûr.
Et leur vertu. D'accord.
Alors, chaque immortel possède un pouvoir spécial et symbolise un aspect spécifique de la vie humaine. Et ensemble, et ça c'est important, ils représentent la santé, la longévité, la prospérité, la sagesse, la vertu, la justice et la guérison.
Bien.
Alors, ils sont 7 hommes et une femme. Et la femme, elle est souvent représentée avec un lotus. On peut la reconnaître, symbole de pureté et de grâce. Et elle aurait atteint l'immortalité. Ça, je trouve ça quand même un peu misogyne.
C'était pas à l'air de Me Too, là, parce que elle...
Voilà, elle aurait atteint l'immortalité grâce à une plante magique qu'elle a consommée, pas par sa vertu.
Comment on peut entendre ça, que la femme, par spiritualité, ne peut pas y arriver?
C'est ça, ça m'a beaucoup déplu.
Je comprends.
Mais bon, ça date, c'est
pour
ça.
Oui, c'est ça.
Alors, en tout cas, il y avait quand même une femme qui était représentée.
Oui, déjà, c'est bien.
Et donc, ils sont souvent représentés ensemble, ces 8 immortels.
Mm-hmm.
Et c'est donc, c'est bien de les avoir chez soi, ça signifie l'harmonie de la vie.
Mmh.
Et justement, dans les légendes, est mis en avant l'importance de la diversité des talents et il symbolise le pouvoir collectif d'unir les forces du ciel et de la terre.
D'accord.
Voilà, c'est des belles idées, je trouve.
Bien sûr.
Et ils incarnent bien sûr les idéaux de vertu, d'équilibre, de créativité, discipline, non loin des vertus confucianistes, mais en plus fun, je dirais.
D'accord. Mais alors, du coup, dis-moi, Corinne, Lao Tzu et Confucius, ils se sont rencontrés?
Oui, Didier, et Lao Tzu aurait critiqué Confucius sur les rites et la moralité qu'il imposait. Lao Tzu défendait une approche plus souple de la vie en société, en suivant le Tao, autrement dit la nature et la spontanéité.
Mais alors, il reste quoi, en fait, aujourd'hui, du taoïsme?
En fait, son empreinte dans le monde est quand même vraiment indélébile. Il joue toujours un rôle essentiel dans la culture chinoise. On le retrouve, bien sûr, dans la médecine traditionnelle, dont on te parlera bientôt, dans les arts martiaux, on va voir ça
tout clairement.
À l'heure. Dans la calligraphie, la poésie et tous les arts, et même dans la politique. La pensée taoïste encourage une approche non coercitive du pouvoir, centrée sur le bien-être de la population. Et ces concepts sur l'équilibre et le respect de la nature ont un écho dans les débats contemporains sur l'écologie.
Parce que j'en entends, j'aimerais bien que ça puisse être appliqué pas mal.
C'est ça. Et c'est le taoïsme, c'est reconnu aujourd'hui comme une des plus grandes traditions spirituelles et philosophiques du monde. Et il ne faut pas le confondre avec le shintoïsme japonais, même s'il partage avec lui le concept du respect de la nature, Didier.
Très bien. D'accord.
Voilà, donc après ce moment, je dirais enchanteur, faut le dire, et avant de retrouver le petit dragon, on fait une pause musicale et
on va déjà être dans
l'ambiance, avec la BO du jeu de la mort, le dernier film, le film posthume de Bruce Lee.
C'est
Colin Camp avec de John Barry.
Flute sail on into the sky. Is
Donc c'était la chanson de la BO du Jeu de la mort, film de avec, je dirais, le fantôme de Bruce Lee, Didier.
Oui, on va plutôt dire ça comme ça.
On va dire ça. Donc tu vas nous étonner avec Bruce Lee, parce qu'il avait une personnalité très riche et profonde et bien loin des clichés.
C'est clair.
Allez, on y va.
Tout le monde aura reconnu l'empreinte vocale qu'on a pu retrouver dans ces films.
Oui, ces petits cris de chat, c'était
terrible. Voilà, ça, c'était, moi, c'est le souvenir que j'en avais. Alors, Bruce Lee s'appelait en chinois Li Junfan. Il est né le 27 novembre 1940 à San Francisco. Et il est décédé d'un œdème cérébral le 20 juillet 1973 à Hong Kong. Et c'était il y a 50 ans, en fait. Il avait seulement 32 ans.
Très jeune.
Oui, hein. Bah oui, oui. On le connaît comme acteur, mais aussi comme réalisateur, producteur, scénariste et surtout un grand maître, bien sûr, des arts martiaux. Il est considéré comme une légende et son influence va bien au-delà du cinéma et des arts martiaux. Elle touche aussi la culture populaire, la philosophie et la manière dont les arts martiaux sont perçus et enseignés dans le monde occidental.
Quelle a été son enfance, Didier, à Bruce Lee ?
Alors, Bruce Lee est né donc l'année du dragon.
Ça m'étonne.
Va bien quand même, hein.
Terrible.
En 1940 à San Francisco, lors d'une tournée de ses parents aux États-Unis. Il a ensuite grandi à Hong Kong, où il a commencé sa carrière d'acteur dès son plus jeune âge. Son père était chanteur d'opéra cantonais et c'est lui qui a introduit son fils dans le monde du cinéma en tant qu'enfant d'acteur, en fait, enfant acteur. Sa mère venait d'une famille aisée et influente de Hong Kong. Bruce était leur quatrième enfant. Il a tenu son premier rôle à l'âge de 3 mois dans le film Golden Gate Girl. Il est apparu ensuite dans plusieurs films hongkongais, faisant lui une star précoce du cinéma local.
Alors à quel âge Bruce a-t-il découvert les arts martiaux ?
Alors il a commencé vers 13 ans à pratiquer le Tai Chi Chuan avec ses parents, qui voulaient qu'il se canalise un petit peu, vu qu'il se bagarrait beaucoup dans la rue.
D'accord.
C'était un enfant actif, quoi. Hein ? À 18 ans, il a eu la bagarre de trop, par contre, et ses parents l'ont envoyé chez sa grande sœur aux États-Unis pour lui éviter des ennuis. Et c'est là qu'il va apprendre le Wing Chun, une sorte de Kung Fu avec le célèbre grand maître Ip Man, qui est devenu son mentor.
Oui, Ip Man est très célèbre.
Voilà, Ip Man est aussi un personnage que l'on retrouve très souvent dans les films hongkongais. Le film le plus célèbre, c'est The Grandmaster de Wong Kar Wai. Bruce a donc appris avec Ip Man la philosophie, le respect et la discipline. Parallèlement, il va travailler dans un restaurant pour financer ses études de philosophie à l'université de Washington et deviendra aussi professeur en art martial.
Je crois qu'on dit Wong Kar Wai, Didier.
Ah, pardon.
Oui.
Oui, d'accord, pardon, excuse-moi. Du coup, alors...
C'est aux États-Unis qu'il a développé sa technique personnelle et son propre style.
Oui, 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 sa technique s'appelle le JKD, le Jeet Kune Do.
Oui.
C'est la voix du poing qui intercepte. Ça parle.
Ça parle.
Bruce s'était inspiré de plusieurs disciplines, la boxe, l'escrime et bien sûr le Wing Chun. Il disait « Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre ». Ce concept marquait le début de sa philosophie de l'art martial, sans forme, comme le principe du Tao.
Eh oui.
Sa phrase « Be Water, my friend » est célèbre et résume bien sa philosophie qui comparait le combattant idéal à l'eau qui s'adapte et à n'importe quelle forme en fait.
Et sa vie de famille, Didier ? Il s'est marié jeune, je crois, Bruce.
Alors oui, c'est en 1961, à l'âge de 21 ans, que Bruce va rencontrer Linda Emery, une étudiante de son université où il donnait des cours d'arts martiaux. Linda était l'une de ses élèves. Ils se marieront donc en 64 malgré des obstacles liés à la discrimination raciale. Linda étant d'origine anglaise et suédoise. Alors Linda jouera un rôle essentiel dans la vie de Bruce, le soutenant tout au long de sa carrière. Ils auront deux enfants, Brandon Lee, né en 1965, qui deviendra acteur et expert en arts martiaux comme son père. Malheureusement, Brandon va mourir tragiquement en 93 à l'âge de 28 ans lors du tournage du film The Crow, à la suite d'un accident de tir.
Oui, c'est vraiment tragique.
C'est tragique dans la famille. Et leur fille, Shannon Lee, née en 69, est aujourd'hui engagée dans la Bruce Lee Foundation, dédiée à la promotion de la philosophie et des enseignements, ainsi que la préservation de sa mémoire.
Alors, quand est-ce qu'il va commencer sa carrière d'acteur, Bruce Lee?
Après son mariage, Bruce va s'installer en Californie. Il y aura plusieurs écoles d'arts martiaux, enseignera une clientèle hollywoodienne célèbre comme Steve McQueen ou James Coburn, qui deviendront ses amis d'ailleurs. Cela va l'aider à entrer dans l'industrie du cinéma américain, mais on lui proposera seulement des petits rôles à cause de la discrimination raciale de l'époque. Malgré son charisme, ses talents, il n'aura pas de rôle principal de la série télévisée Kung Fu, qui sera finalement attribuée à l'acteur blanc qu'on connaît, David Carradine. Cette déception le poussera à retourner à Hong Kong en 1971, où il deviendra rapidement une immense star, mais il va jouer dans la série télévisée The Green Hornet, le frelon vert, en 1966, ce qui lui aura permis quand même de se faire connaître du public américain.
Malgré cette bonne hygiène de vie, Bruce Lee va mourir à 32 ans, Didier.
Eh oui, sa forme physique exceptionnelle, Bruce Lee va avoir des problèmes de santé quelques mois avant sa mort, en 73, en mai. Souffrant de convulsions et de maux de tête, il va s'évanouir lors du tournage de Opération Dragon et sera hospitalisé. Les médecins diagnostiquent un œdème cérébral. Il va s'en remettre rapidement, mais cela annonce en fait rien de bon. Bruce Lee va donc mourir brutalement le 20 juillet 1973 à 32 ans, alors qu'il travaillait sur le scénario du Jeu de la mort dont on a parlé. Ceci dit, les circonstances qui l'entourent restent un peu floues quand même. Il y a de nombreuses spéculations.
Oui, Didier, c'est déjà fini.
C'est déjà fini.
Et Bruce, il nous a laissé en héritage beaucoup de choses. On n'a pas parlé de ses films.
Ouais, mais les gens le connaissent.
Les gens connaissent. Il faut savoir que Le Jeu de la mort, c'est un film posthume. Ça a été fait avec des coupures de ses propres films.
Oui.
Et puis, qu'il a inspiré Tarantino et qu'il est un précurseur du MMA. C'est
bien
un
sûr.
Penseur visionnaire.
Oui, oui.
Peut-être qu'on y reviendra, Didier.
Peut-être, oui. Et puis, de toute façon, vous pouvez toujours regarder sur les réseaux. Ça, c'est assez facile de se renseigner sur la filmographie.
Voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, les amis, et nous réécouter samedi matin à 9h30 et bien sûr en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa.
À la semaine prochaine. Thank you.